Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Comment aider les entrepreneurs à optimiser leurs recettes ou leur chômage partiel? Des centres pour entreprises en difficulté offrent bénévolement leurs services en ce moment face à la crise économique. À l'heure où les bars ferment à Paris, où les restaurants se plient à des strictes mesures sanitaires dans les grandes métropoles, nous sommes allés dans l'un de ces centres à Lyon. Reportage dès le début de ce journal. Direction ensuite Bruxelles où se tient la session plénière mensuelle du Parlement européen. Strasbourg a une fois encore été écarté par peur du Covid-19. Engie valide l'offre de reprise de Suez par Veolia. Pour reprendre tout le capital toutefois, la route est encore longue et semée d'embûches, vous l'entendrez dans cette édition. Et puis, compte rendu de l'audience d'hier au procès des attentats de janvier 2015, un premier accusé s'est exprimé. Il affirme qu'il ne savait rien des projets d'attentats. Les bars ont donc fermé à Paris et dans sa proche banlieue hier et pour au moins 2 semaines. Le temps de freiner l'épidémie de nouveau coronavirus, voilà ce que disent les autorités. Les restaurants, eux, peuvent rester ouverts avec un protocole strict, ce qui peut quand même, selon les professionnels, freiner leur économie. Pour les entreprises en difficulté, justement, les CIP sont pris d'assaut en ce moment. Il s'agit de centres d'information pour les entreprises en difficulté qui aident les patrons bénévolement. Anciens juges du tribunal de commerce, experts comptables, avocats, tous reçoivent en toute confidentialité et proposent des solutions aux entrepreneurs pour éviter la faillite. Près de Lyon, dans la Loire, à Roanne, une région riche en PME et en TPE, le CIP joue pleinement son rôle en ce moment. C'est un reportage de Mathilde Imberti.
Asseyez-vous.
Les entretiens sont gratuits et confidentiels. Le patron de PME peut se confier.
Donc il y a 4 ans, donc j'ai monté ma société de VTC. Tout allait très très bien jusqu'à ce que nous arrive le Covid, puisque notre clientèle est essentiellement axée sur l'homme d'affaires, les touristes, et essentiellement les touristes américains et russes.
C'est un ancien président du tribunal de commerce qui conseille. Guy Delorme a monté l'antenne rouennaise du Centre des entreprises en difficulté.
Eh bien, je pense que notre rendez-vous a été marqué par le fait qu'il ne fallait pas perdre confiance, parce que, effectivement, les problèmes étaient pris très en avant.
Moi, je n'ai pas voulu reporter mes charges. On a, par contre, mis en place le report des prêts pour les voitures. Ce sont quand même des crédits assez lourds tous les mois.
Et la société vivote en attendant des jours meilleurs. Le Covid a, par contre, été fatal à d'autres.
On faisait de l'export de bière artisanale française au Royaume-Uni. Le Brexit a été très compliqué et puis quand le Covid est arrivé, on n'a pas vraiment pu lutter avec nos petits moyens, nos petits bras, nos petites armes. On a tout arrêté en fin de compte.
Ce qu'il fallait lui proposer, c'est quels étaient les meilleurs moyens d'arrêter cette activité puisqu'il n'y avait pas de solution. Et vous féliciter pour ce que vous avez fait parce que c'est bien quelqu'un qui entreprend. Puis peut-être plus tard de repenser à quelque chose d'autre. La vie commence pour vous, vous êtes très jeune.
Merci beaucoup.
Car il s'agit aussi de remonter le moral des entrepreneurs en période trouble.
Un reportage de Mathilde Imberti. Sachez que dans une demi-heure, nous nous intéresserons au télétravail pour les entreprises toujours debout. Changement introduit par la crise dans le monde de l'entreprise. Le Covid-19 et ses conséquences encore, elle nous emmène maintenant à Bruxelles où se réunissent comme tous les mois les députés européens en plénière. À Bruxelles donc et non pas à Strasbourg comme c'était le cas avant l'épidémie. La ville reste toujours rouge selon le reste de l'Europe. Et cela ne plaît pas à Emmanuel Macron et au député français Pierre Benazet.
Dans les ascenseurs du Parlement européen, il est recommandé de ne pas parler par précaution sanitaire. Dans l'hémicycle, en revanche, tout le monde s'exprime. Enfin, les députés qui ne sont pas en télétravail. Mais pour Anne Santerre, eurodéputée Les Républicains, Emmanuel Macron aurait dû taper du poing sur la table bien plus tôt pour défendre Strasbourg. D'autant que le Covid y est moins présent qu'à Bruxelles.
Strasbourg est gravé dans le marbre, dans les traités. Et à un moment donné, si le Parlement ne respecte pas les traités, la France doit pouvoir engager un recours devant la Cour de justice. Nous devons donner l'exemple, nous le Parlement européen, on impose des législations, nous devons nous-mêmes respecter les traités.
Mais le Covid relance le débat sur le long terme. Les opposants à Strasbourg remettent sur le tapis leurs arguments sur le prix de la transhumance mensuelle, l'importance d'être au cœur des débats ou bien le coût écologique. L'empreinte carbone serait en fait négligeable selon un récent rapport interne. Christophe Grudler, eurodéputé En Marche.
La bulle bruxelloise, c'est pas le travail parlementaire. La bulle bruxelloise, c'est confort, la Commission, le Parlement, tout le monde ensemble, le Conseil, et puis finalement les députés font pas leur travail. Quand ils sont à Strasbourg, eh bien, au moins, ils peuvent faire le travail en prenant une distance avec la Commission, une distance avec le Conseil européen. Et donc, on peut mieux agir et mieux défendre ses dossiers.
Et tous ont décidé de se serrer les coudes dans les couloirs du Parlement européen, rencontrer un eurodéputé français défavorable à Strasbourg, relève de la gageure.
Pierre Benazet, qui est donc à Bruxelles pour France Culture. Encore malade du SARS-CoV-2, Donald Trump a quitté cette nuit l'hôpital. Dès son retour à la Maison-Blanche, le président américain a pourtant retiré son masque et appelé les Américains à sortir avec prudence. Dans une mise en scène savamment orchestrée, il promet de reprendre bientôt la campagne électorale pour la présidentielle dans un mois. Vous l'entendrez dans le journal de 7h de France Culture. Avant cela, il est 6h35 et Suez sera bientôt racheté par Veolia. Une partie en tout cas, car le conseil d'administration d'Engie a accepté hier la proposition de Veolia, à savoir lui racheter les 29,9% des parts que Engie détient dans Suez. Montant de cette transaction, 3,4 milliards d'euros. C'est maintenant à Veolia de lancer une OPA sur le reste du capital de Suez, mais les obstacles sont loin d'être levés, Anne-Laure Jumet.
Suez voit en effet toujours cette opération comme hostile, mais le groupe a-t-il aujourd'hui le choix de la contrer? L'alternative qui aurait pu être portée par le fonds Ardian n'a pu être montée à temps. Le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, avait d'ailleurs déjà fait savoir qu'il ne pouvait attendre une hypothétique offre, alors que celle de Veolia, revue et corrigée, répondait à ses attentes. À présent, le schéma qui est sur la table, poussé par les pouvoirs publics, c'est de faire naître un nouvel acteur de l'eau en France, de taille à rivaliser avec Veolia. Car en cas de succès de son OPA, le groupe d'Antoine Frérot s'est déjà engagé à céder l'activité eau de Suez en France au fonds Méridiam. Mais pour l'État, ce nouveau Suez n'est pas assez dimensionné. D'où des discussions tout le week-end pour demander à Veolia des cessions supplémentaires, notamment à l'international, afin de faire grossir son nouveau rival. À ce jour, Bercy n'a donc pas réussi dans sa tentative de médiation. Mais pour Jean-Pierre Clamadieu, on a aujourd'hui les bases de ce qui pourrait constituer un accord. Pas sûr que la direction et surtout les syndicats de Suez en soient encore convaincus.
Veolia souhaite en tout cas reprendre les discussions dès aujourd'hui, affirmant qu'il ne lancera pas d'OPA sans avoir obtenu un accueil favorable du conseil d'administration de Suez. C'est une première étape et le vote solennel prévu aujourd'hui à l'Assemblée n'est qu'une formalité. Les députés ont bel et bien validé hier l'article de loi qui autorise les producteurs de betteraves à utiliser de nouveau les néonicotinoïdes, ces insecticides surnommés par les écologistes tueurs d'abeilles. D'après les agriculteurs, ils seraient les seuls à même d'enrayer une maladie transmise par le puceron pour les betteraves. D'autres producteurs, d'endives notamment, demandent maintenant cette même dérogation. La Cour d'assises spéciale de Paris a entamé hier les interrogatoires individuels des accusés dans le procès des attentats de janvier 2015. Premier à prendre la parole hier, Willy Prévost. Il a grandi à Grigny, dans le même quartier qu'Amédi Coulibaly. Ensemble, ils se sont livrés à divers trafics de stupéfiants. Willy Prévost est aujourd'hui accusé d'avoir acheté 2 couteaux, 2 gilets tactiques, 2 gazeuses et 1 taser pour le tueur de l'hypercacher, de lui avoir fourni aussi une voiture. C'est vrai, dit-il, mais il ne connaissait pas les intentions du terroriste. Florence Turm nous raconte.
L'interrogatoire se prolonge et Willy Prévost s'énerve. Mais parlez-moi des trucs que j'ai faits, c'est du n'importe quoi. Dans les rangs de la partie civile, les avocats ont montré une ancienne photo de lui, barbu, sans moustache, caractéristique esthétique des salafistes, souligne Richard Malka. L'accusé, aujourd'hui chauve et imberbe, enlève son masque. Ben oui, là j'ai une cicatrice et ça pousse pas, j'aurais été converti, je l'aurais dit. Il affirme qu'il ne connaissait pas les raisons de la dernière condamnation d'Amédi Coulibaly, lié à une affaire de terrorisme. Pas même l'orientation religieuse rigoriste du tueur de l'hypercacher. Dénonce avec virulence les attentats et leurs auteurs, s'adoucit quelque peu aux questions de son avocat Hugo Lévy qui avance déjà ses arguments de plaidoirie en revenant sur les faits quelque peu éludés par le président. Acheter une voiture sur le bon coin à visage découvert, faire des achats répétés dans un magasin fréquenté par les forces de l'ordre, immatriculer une moto au nom de votre mère, vous ne pensez pas que cela fait de vous un bouc émissaire ou un imbécile? Vous seriez un nouveau type de martyr, un martyr carcéral? Willy Prévost rebondit. J'aurais eu connaissance des intentions de Coulibaly, j'aurais jamais impliqué ma sœur, ma mère. Sa mère, qui témoigne à son tour à la barre, voix traînante, audition difficile, l'air perdu, mais elle se rappelle les menaces d'Amédi Coulibaly, venu chez elle à 2 reprises, armée. C'était pas l'ami de Willy, ajoute son père. Ça a jamais été un caïd, Willy. Victime, oui, mais pas caïd.
Florence Turme, dont vous pouvez retrouver les comptes rendus d'audience, les chroniques judiciaires sur notre site franceculture.fr. Un temps pluvieux s'installe ce matin sur toute la France métropolitaine, particulièrement au sud de la Loire, avant l'arrivée d'éclaircies par l'ouest cet après-midi. Ce matin, il fait 11 degrés à Besançon, 12 à Lille, 13 degrés à Paris, 14 à Nantes, 18 degrés à Biarritz et 20 à Aix-en-Provence.